Leçon 6. Le français et les français.
1. Sur la langue française. Eh bien, John, comment vont vos études de français?
Oh, j'ai quelques difficultés avec les temps des verbes. Ce sont ceux du passé, surtout, que je ne saisis pas très bien. Plus que parfait, passé antérieur, passé simple, passé composé, passé surcomposé.
Oui, la langue française offre une riche gamme de formes.
Tu te fais de la bile pour pas grand-chose. Jamais tu n'emploieras le passé simple ni le passé antérieur dans la conversation.
Mais je les lis très souvent dans les journaux, et même il m'arrive de les entendre à la télévision. Et puis, comment faire la différence entre le passé antérieur et le plus que parfait pour exprimer l'antériorité? Tenez, je lis dans les célibataires de Monterlon. Sitôt qu'il avait entendu la porte de la maison se refermer, il descendait les deux étages. Ou encore, Simone de Bourret alla vivre en Bretagne auprès d'une vieille mais riche cousine qui l'avait prise en affection. Mais ailleurs, quand son neveu eut monté quelques marches, il monta derrière lui.
Vous trouverez sûrement dans votre grammaire l'explication de ces cas. Il vous suffit, en attendant, de savoir qu'après un verbe principal à l'imparfait, le verbe subordonné est généralement au plus que parfait. Il s'agit alors des faits qui se répètent. Mais si le verbe principal exprime un passé isolé, on emploie le plus que parfait après qui ou parce que, et le passé antérieur après quand, dès que.
Oh, c'est français! Quel grammairien!
2. Vous ressembliez à la France.
Un officier français combattant dans la résistance a été surpris, blessé et capturé par les troupes allemandes avançant dans le centre de la France. On l'a emmené dans l'hôtel d'une petite ville occupée par les Allemands. Étendu sur le sol, il est gardé par un soldat à la tête d'oiseau qu'il appelle Mon Moineau. C'est l'aube. Il écoute les voix se croiser dans l'escalier. Les soldats s'apprêtent au départ. Madame, vous avez du beurre?
Non.
Vous avez du chocolat?
Non.
Et madame, vous avez du pain?
Avec des tickets. On ne demandait plus rien. Sans doute, la patronne avait-elle quitté sa caisse. Un temps, des bottes montées avec un tintement de gamelle. Puis, des étages supérieurs, vint une rumeur bizarre qui augmenta en s'approchant. Celle des enfants lorsqu'on découvre devant eux l'arbre de Noël. Les demi-persiennes s'écartèrent, poussées par un plateau sur lequel était posé un bol de café au lait qui fumait, et de grosses tranches de pain blanc beurré. Derrière lui, la patronne. Ses cheveux blancs étaient soigneusement coiffés. Elle avait mis une robe noire, comme pour aller à la messe, mais portait un tablier blanc, parce qu'elle venait de la cuisine. Elle regardait les carreaux ensanglantés. Mes blessures avaient saigné cette nuit. Vint vers moi, s'agenouilla. Une jambe, puis l'autre. Il n'est pas facile à une femme âgée de s'agenouiller en portant un plateau. Elle le posa sur ma poitrine, se releva, alla aux demi-persiennes, se retourna. Deux grandes taches rouges sur le tablier blanc, à la place des genoux. Et dit, du ton dont elle disait sans doute souvent 40 ans plus tôt, « Vous allez me faire le plaisir de ne pas chiper les tartines de vos frères. » Mais avec quelque chose d'imperceptiblement solennel. C'est pour l'officier français, blessé, et remonta dans le bruit des bottes qui s'écartaient devant elle.
Mon Moineau me regardait, le bec ouvert. Arracher des tartines à un blessé, ridicule. Mais tout cela était provoquant. Partageons, lui dis-je. Il se leva, sortit. Il revint avec un verre et prit une de mes tartines. Dès qu'il l'eut posée sur le bureau, il prit le bol pour verser la moitié du café au lait dans le verre. Il se brûla. Il posa le verre sur le bureau, reprit le bol dans son mouchoir et versa, en calculant avec soin. Retour du bol. Sur les carreaux blancs, il y avait maintenant de grandes semelles de sang vers le bureau, étaient petites.
Vers 8 heures, nous partîmes. La patronne était revenue.
Je vous remercie, madame. Vous étiez très bien tout à l'heure. Vous ressembliez à la France.
Elle cessa d'écrire. Son visage resta immobile et son regard me suivit jusqu'au moment où la porte de l'hôtel se referma.
Vocabulaire.
Saisir.
Une forme.
La bile.
Se faire de la bile.
Grand chose.
Il arrive à quelqu'un de faire quelque chose.
Exprimer.
Une antériorité.
Un célibataire.
Les célibataires.
Monterlan.
Sitôt que.
Se refermer.
Simone.
Boré.
La Bretagne.
Auprès d'eux.
Un neveu.
Sûrement.
Un cas.
En attendant.
Il suffit à quelqu'un de faire quelque chose.
Subordonner.
Généralement.
Se répéter.
Un fait.
Isolé.
Un grammairien.
Une grammairienne.
Ressembler à.
Un officier.
Combattre.
La résistance.
Surprendre.
Blesser.
Capturer.
Les troupes.
Avancer.
Étendu.
Le sol.
Garder.
Un soldat.
Un oiseau.
Appeler quelqu'un X.
Un moineau.
Une aube.
Se croiser.
S'apprêter à quelque chose. S'apprêter à faire quelque chose.
Un ticket.
Des bottes.
Un tintement.
Une gamelle.
Une rumeur.
Bizarre.
S'approcher de.
Lorsque.
Un arbre de Noël.
Les demi-persiennes.
La persienne.
S'écarter.
Un plateau.
Poser.
Un bol.
Fumer.
Une tranche.
Beurrer.
La patronne.
Soigneusement.
Coiffer.
La messe.
Un tablier.
Un carreau.
Ensanglanté.
Une blessure.
Saigner.
Cette nuit.
S'agenouiller.
Se relever.
Se retourner.
Une tache.
À la place de.
Un genou.
Un ton.
Chipper.
Une tartine.
Imperceptiblement.
Solennel.
Le bruit.
Un bec.
Arracher quelque chose à quelqu'un.
Ridicule.
Provoquant, provocante.
Partager.
Un verre.
Se brûler.
Un mouchoir.
Calculer.
Le soin.
Un retour.
Une semelle.
Immobile.
Un regard.
Jusqu'au moment où.
Qui peut le plus, peut le moins.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Lecture. L'enfant prodige. Lorsque ma mère allait au marché, elle me laissait au passage dans la classe de mon père, qui apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. Je restais assis, bien sage, au premier rang, et j'admirais la toute-puissance paternelle. Il tenait à la main une baguette de bambou. Elle lui servait à montrer les lettres et les mots qu'il écrivait au tableau noir, et quelquefois à frapper sur les doigts d'un cancre inattentif. Un beau matin, ma mère me déposa à ma place et sortit sans mot dire, pendant que mon père écrivait magnifiquement sur le tableau, la maman a puni son petit garçon qui n'était pas sage.
Tandis qu'il arrondissait un admirable point final, je criai « Non, ce n'est pas vrai !» Mon père se retourna soudain, me regarda stupéfait et s'écria « Qu'est-ce que tu dis ? Maman ne m'a pas puni, tu n'as pas bien écrit !» Il s'avança vers moi. « Qui t'a dit qu'on t'avait puni ? C'est écrit. » La surprise lui coupa la parole un moment. « Voyons, voyons, dit-il enfin, est-ce que tu sais lire ?»« Oui. » »« Voyons, voyons, répéta-t-il. » Il dirigea la pointe du bambou vers le tableau noir.
« Eh bien, lis. » Je lus la phrase à haute voix. Alors, il alla prendre un abécédaire et je lus sans difficulté plusieurs pages. Je crois qu'il eut ce jour-là la plus grande joie, la plus grande fierté de sa vie. Lorsque ma mère survint, elle me trouve au milieu de 4 instituteurs qui avaient renvoyé leurs élèves dans la cour de récréation et qui m'entendaient déchiffrer lentement l'histoire du petit Pousset. Mais au lieu d'admirer cet exploit, elle pâlit, déposa ses paquets par terre, referma le livre et m'emporta dans ses bras en disant « Mon Dieu, mon Dieu !» Sur la porte de la classe, il y avait la concierge qui était une vieille femme corse. Elle faisait des signes de croix. J'ai su plus tard que c'était elle qui était allée chercher ma mère en l'assurant que ces messieurs allaient me faire éclater le cerveau.
À table, mon père affirma qu'il s'agissait de superstitions ridicules, que je n'avais fourni aucun effort, que j'avais appris à lire comme un perroquet apprend à parler et qu'il ne s'en était même pas aperçu. Ma mère ne fut pas convaincue. Et de temps à autre, elle posait sa main fraîche sur mon front et me demandait « Tu n'as pas mal à la tête ?» Non, je n'avais pas mal à la tête, mais jusqu'à l'âge de 6 ans, il ne me fut plus permis d'entrer dans une classe ni d'ouvrir un livre par crainte d'une explosion cérébrale. Elle ne fut rassurée que 2 ans plus tard, à la fin de mon premier trimestre scolaire, quand mon institutrice lui déclara que j'étais douée d'une mémoire surprenante, mais que ma maturité d'esprit était celle d'un enfant au berceau. Marcel Pagnol, La gloire de mon père.
Vocabulaire.
Tricoter.
Être au courant de.
Éviter.
Un prodige.
Un enfant prodige.
Un passage.
Gamin, gamine.
Un rang.
La puissance.
La toute-puissance.
Paternelle.
Servir à.
Une lettre.
Un doigt.
Un cancre.
Déposer.
Magnifiquement.
Punir.
Tandis que.
Arrondir.
Admirable.
Un point.
Final.
Soudain.
Stupéfait.
S'écrier.
S'avancer.
Une parole.
Diriger.
Une pointe.
Un abécédaire.
Une page.
La fierté.
Survenir.
Instituteur, institutrice.
Renvoyer.
La récréation.
Déchiffrer.
Lentement.
Un exploit.
Pâlir.
Refermer.
La Corse.
Corse.
Un signe.
Une croix.
Éclater.
Un cerveau.
Affirmer.
La superstition.
Fournir.
Un perroquet.
S'apercevoir de.
Convaincre.
De temps à autre.
La crainte.
Par crainte de.
Une explosion.
Cérébrale.
Un trimestre.
Doué.
Une mémoire.
La maturité.
Un berceau.
La gloire.